le rendez-vous d'Amnesty International.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio FM+, et vous écoutez Amnesty International. Aujourd'hui, on va parler du Niger, et plus précisément de Moussa Tchangari, qui est un défenseur des droits humains, qui est en prison depuis 6 mois, et Amnesty International demande que sa détention cesse. Les autorités nigériennes, en effet, on leur demande de libérer immédiatement Moussa Tchangari, qui est militant de la société civile et défenseur des droits humains, et de cesser d'utiliser les accusations de terrorisme pour faire taire en général les voix discordantes. C'est en tout cas ce que demande aujourd'hui Amnesty International, Human Rights Watch, la Fédération internationale pour les droits humains et l'Organisation mondiale contre la torture, l'OMCT. Et tout ça dans le cadre de l'Observatoire pour la protection des défenseurs et défenseuses des droits humains. Il faut savoir que le 3 décembre 2024, donc l'année dernière, des hommes se présentant comme des policiers ont arrêté Moussa Tchangari à son domicile à Niamey, qui est la capitale du Niger. Le 3 janvier 2025, donc un mois plus tard, le tribunal de grande instance de Niamey l'a inculpé de plusieurs infractions graves, dont association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, atteinte à la défense nationale et complot contre l'autorité de l'État en intelligence avec des puissances ennemies. S'il est reconnu coupable de complot en intelligence avec des puissances ennemies, il risque donc la peine de mort. Nous demandons donc instamment aux autorités de libérer Moussa Tchangari immédiatement et d'abandonner toutes les charges retenues contre lui. Marceau Sivieud, qui est le directeur régional par intérim d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, nous dit même, je cite, Moussa Tchangari est détenu uniquement pour avoir exercé ses droits humains. Nous demandons instamment aux autorités de le libérer immédiatement et d'abandonner toutes les charges retenues contre lui. Nous sommes profondément préoccupés par l'utilisation de telles accusations pour réduire au silence ceux qui critiquent le gouvernement. Il faut savoir que le jour même de son inculpation, Tchangari a été transféré à la prison de Filingué, à 170 km de Niamey, où il est toujours arbitrairement détenu en détention préventive. Depuis lors, il n'a été entendu par aucun juge sur le bien fondé des charges qui sont retenues contre lui. 3 semaines avant son arrestation, le 12 novembre 2024, Tchangari avait critiqué sur les réseaux sociaux la décision du ministre de l'Intérieur du Niger de retirer leur licence à 2 organisations non gouvernementales humanitaires. Il avait également critiqué la création d'un fichier de personnes et de groupes associés au terrorisme, une mesure qui porte atteinte en fait aux droits humains de la population nigérienne. Moussa Tchangari risque d'être déchu de sa nationalité nigérienne pour les accusations de terrorisme pesant à son encontre sur la base d'une ordonnance d'août 2024 établissant une base de données pour les individus et les groupes associés au terrorisme et aux infractions liées à la défense nationale. En vertu du code pénal nigérien, les accusations liées au terrorisme peuvent entraîner jusqu'à 4 ans de détention préventive non renouvelable. Amnesty International, Human Rights Watch, la FIDH et l'OMCT ont examiné les chefs d'accusation, les chefs d'inculpation, et peuvent confirmer qu'aucun d'entre eux ne concerne des infractions internationalement reconnues, car ils sont tous liés à l'exercice légitime du droit à la liberté d'expression. Drissa Traoré, qui est la secrétaire générale de la FIDH, a déclaré, je cite, « L'arrestation de Tchangari s'inscrit dans une tendance généralisée de répression des autorités nigériennes qui prennent pour cible et soumettent à un harcèlement judiciaire constant toutes les personnes qui les critiquent publiquement pour les réduire au silence. » Pour Ilaria Alegrodi, qui est chercheuse principale sur le Sahel à Human Rights Watch, son arrestation et sa détention envoient un message glaçant à tous ceux qui osent critiquer le glissement du régime nigérien vers l'autocratie. Et pour Isidore Ngele, le responsable du bureau régional pour l'Afrique de l'OMTC, l'arrestation de Tchangari est une grave erreur et elle est contre-productive. Depuis des décennies, il incarne l'appel du peuple nigérien à la démocratie, à la sécurité, à la souveraineté des ressources et à l'indépendance. Un gouvernement qui respecterait la volonté du peuple le libérerait. En ce qui concerne Tchangari, il a 55 ans, il est le secrétaire général d'Alternative Espace Citoyen, AEC, qui est une organisation de la société civile. Le 3 décembre 2024, donc vers 19h30, au moins trois hommes armés qui étaient habillés en civil ont arrêté Tchangari à son domicile à Niamey et ils ont saisi son téléphone, son ordinateur portable et sa valise. Son sort et son lieu de résidence sont restés inconnus pendant deux jours. Le 5 décembre 2024, il a été localisé au service central de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée à Niamey. En mars et en mai 2025, respectivement, les juridictions nigériennes ont rejeté les requêtes des avocats de Moussa Tchangari visant à obtenir la nullité de l'affaire et le dessaisissement de la chambre judiciaire spécialisée dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée transfrontalière. Les avocats ont donc fait appel suite à ce rejet. Amnesty International, Human Rights Watch, la FIDH et l'OMCT ont demandé la libération immédiate et inconditionnelle de Tchangari. Les membres d'Amnesty International se sont mobilisés en sa faveur. Dans un communiqué de presse conjoint publié en juillet 2024, Amnesty International, Human Rights Watch et la FIDH ont exprimé leur profonde inquiétude et dénoncé la répression exercée par les autorités militaires du Niger contre l'opposition, les médias et la dissidence pacifique depuis qu'elles ont pris le pouvoir suite au coup d'État de juillet 2023. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la question, dans un rapport publié en mars 2025, Amnesty International a fait état de la répression qui est exercée contre d'anciens membres du gouvernement et les voix critiques depuis le coup d'État. Mais le Niger n'est pas le seul pays où les droits humains commencent à baisser, puisque en Argentine, on a eu une violente répression il y a deux ans dans la province de Jujuy, donc d'après un rapport d'Amnesty International qui dénonce l'impunité, puisque deux ans après le débat constitutionnel et les mouvements sociaux successifs qui ont eu lieu dans la province de Jujuy, le rapport d'Amnesty International intitulé « Callar no es una opción, Jujuy » Entre la répression et la impunidad, donc le silence n'est pas une option, Jujuy entre répression et impunité, ce rapport donc souligne qu'il n'y a eu pratiquement aucune avancée concrète en matière de reddition de comptes pour la répression qui a caractérisé la réaction des pouvoirs publics face à la mobilisation sociale massive de la population de la province en 2023. Pour Anna Piquet, qui est directrice pour les Amériques à Amnesty International, ce deuxième anniversaire du processus de réforme constitutionnelle est malheureusement marqué par l'impunité qui reflète la stratégie de l'État visant à réduire au silence celles et ceux qui osent revendiquer leurs droits. Durant tout ce temps, la province de Jujuy n'a pas fourni d'éclaircissement concernant les stratégies mises en œuvre dans le but évident de violer le droit à la liberté de réunion pacifique dans la province, avec un recours excessif à la force, des détentions arbitraires ou encore des enquêtes visant à criminaliser les manifestants et les manifestantes. En moins d'un mois, entre mai et juin 2023, une réforme constitutionnelle rétrograde en matière de droits humains, notamment pour les peuples indigènes, a été débattue et approuvée à huis clos et de façon accélérée par l'Assemblée législative de Jujuy, ce qui a conduit des milliers de personnes à descendre dans la rue pour exprimer leur rejet du texte proposé et dénoncer l'absence de participation et de consultation de la population. Le rapport d'Amnesty International montre que l'État de Jujuy a non seulement tourné le dos avec insistance aux demandes légitimes de participation, mais a également répandu la peur et recouru à la violence et à l'intimidation contre les personnes qui ont élevé la voix. Le rapport d'Amnesty International met également en évidence l'exclusion totale des peuples indigènes du débat sur la réforme, dans un contexte de dépossession territoriale et de discrimination structurelle dans cette province, qui compte la plus forte proportion de personnes autochtones à l'échelle du pays. Leur exclusion s'est manifestée tout d'abord avec l'approbation de la nouvelle constitution, sans leur consentement préalable, donnée librement et en connaissance de cause, comme le prévoit pourtant le droit international relatif aux droits humains, puis avec l'interdiction normative et la dispersion violente des blocages de rues et aussi des restrictions disproportionnées de l'exercice légitime du droit de manifester. Pour nos recherches, donc, afin de rédiger ce rapport, notre organisation a interrogé 111 personnes, dont 90% appartiennent à des peuples indigènes, et au moins 91 d'entre elles ont directement participé aux manifestations. La délégation a également organisé des réunions avec les autorités et a présenté plusieurs demandes d'accès aux informations publiques à des entités de la province. En plus de ça, l'équipe de vérification numérique de Amnesty International a recueilli plus de 50 enregistrements cinématographiques et photographiques afin d'analyser les événements et l'usage de la force par la police. Et la répression a fait des centaines de blessés, avec dans certains cas des lésions permanentes. Dans ce nouveau rapport, Amnesty International constate donc que la police provinciale a fait un usage illégal, arbitraire et surtout excessif de la force, dans le but patent de disperser les manifestations. Amnesty International a notamment réuni des informations sur l'usage illégal de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc, y compris de munitions à impact multiple dont l'utilisation devrait être totalement interdite au regard des normes internationales relatives aux droits humains. L'utilisation d'armes non réglementées telles que des frondes, des pierres et des fouets a également été constatée. Du coup, la répression a fait au moins 170 blessés, dont au moins 10 qui ont été touchés au visage par une balle en caoutchouc ou une cartouche de gaz lacrymogène, et 3 de ces personnes ont donc perdu l'usage d'un œil. Il faut aussi savoir qu'il y a eu pas mal de détentions arbitraires, criminalisation et mauvais traitements, puisque c'est ça la réponse répressive des autorités face aux manifestations dans la province de Jujuy, puisqu'elle s'est donc accompagnée d'une stratégie de criminalisation. Notre rapport fait état d'au moins 99 arrestations lors des manifestations dans la province de Jujuy, avec notamment des détentions arbitraires, en particulier lors des manifestations du 17 juin à Purmanarca et du 20 juin à San Salvador de Jujuy. En plus de ça, il a été constaté que les autorités policières ont procédé à des arrestations en faisant un usage illégal de la force, notamment contre des enfants et des adolescents ou des adolescentes, et qu'au cours de ces arrestations, des manifestants et manifestantes ont été frappés et ont subi des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Au moins 86 personnes ont été inculpées et font toujours l'objet d'une enquête, notamment pour des chefs d'accusation qui manquent de clarté juridique et qui sont souvent utilisés pour criminaliser les protestataires, tels que par exemple résistance à l'autorité, entrave à la circulation ou la sédition. Amnesty International a également constaté que le code des contraventions de la province était largement utilisé pour intimider et pour sanctionner de façon abusive les manifestants et les manifestantes qui étaient, eux et elles, pacifiques. Au moins 82 procédures contraventionnelles ont été enregistrées, dont un grand nombre contre des personnes qui faisaient également l'objet de poursuites pénales, et ça pourrait constituer d'ailleurs une violation de leur droit de ne pas être jugé deux fois pour les mêmes faits. Joël Prades, c'est une des personnes qu'on a interrogées, par exemple, a perdu l'usage d'un œil pour avoir soutenu des manifestations dans la province de Jujuy. Joël Paredes fait partie des cas de personnes ayant perdu la vue recensées par Amnesty International. Il est inquiet pour l'avenir de ses enfants. Il est céramiste, lui, il a 29 ans, il a participé à cette manifestation sur la place de Humahuaca dans l'après-midi du 30 juin 2023 et avec des centaines de manifestants et manifestantes pacifiques. Il a joué de la grosse caisse avec son groupe pendant que le conseil municipal de Humahuaca débattait de la réforme dans un bâtiment voisin. Au petit matin, la police est arrivée sur place et a commencé à tirer des balles en caoutchouc de façon complètement indiscriminée sur la foule. Et ça a touché Joël à l'œil droit. La blessure a nécessité une intervention chirurgicale, mais le personnel médical n'a pas pu sauver l'œil de Joël, qui est désormais définitivement aveugle de l'œil droit et souffre de douleurs névralgiques invalidantes qui perturbent sa vie quotidienne. Personne n'a eu à rendre des comptes pour ce qui est arrivé à Joël. En 2024, Joël Paredes a fait partie des 10 cas mis en avant à l'échelle mondiale dans le cadre de la campagne Écrire pour les droits humains qu'Amnesty International mène tous les ans et qui vise à apporter un soutien à des personnes harcelées, menacées ou injustement emprisonnées. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur Joël Paredes, vous pouvez aller sur notre site amnestyinternational.fr et signer des pétitions en sa faveur de manière à ce qu'il puisse avoir justice, que les personnes qui ont commis des violences sur Joël Paredes rendent des comptes, tout simplement. Au-delà de ce genre de cas, notre organisation essaye de présenter des conclusions aux autorités de la province de Jujuy. Amnesty International a déjà fait part, dans le passé, de ces conclusions aux autorités de la province de Jujuy, mais on n'avait reçu aucune réponse. Les 28 et 29 octobre, une délégation d'Amnesty International s'est rendue dans la province de Jujuy pour présenter le nouveau rapport, rencontrer les autorités, demander justice, réparation et des garanties de non-répétition pour les victimes des violences étatiques, et pour permettre notamment à Joël Paredes et d'autres, d'avoir justice pour tout ça. Anna Piquet a conclu, je cite, « Personne n'a été sanctionné pour les violations des droits humains commises pendant la répression et les victimes attendent toujours que justice leur soit rendue. » Les cas tels que celui de Joël Paredes ne doivent pas sombrer dans l'oubli, car ils rappellent aux autorités leur énorme dette envers la population de Jujuy, en particulier envers les peuples indigènes de la province, qui continuent de lutter pour la reconnaissance et la garantie de leurs droits humains. Si vous voulez en savoir plus sur cette délégation et sur les événements qui ont eu lieu dans la province de Jujuy, je vous invite à aller consulter le rapport qui est sur le site d'Amnesty International, donc amnestyinternational.fr, et vous pouvez aussi signer des pétitions, que ce soit pour l'Argentine ou pour le Niger, ou encore d'autres pétitions pour des personnes qui défendent les droits humains partout dans le monde. Moi, je vous souhaite un bon week-end sur Radio FM+, et à la semaine prochaine.